Oui, on va. Bon, j'ai choisi un sujet que je vais exposer devant vous et bien sûr une petite demi-heure et après vous pourrez poser des questions. Encore une fois, donc, je vous demande de désactiver votre micro pour qu'il n'y ait pas de bruit pendant mon intervention. Voilà, on va commencer. On va parler un petit peu de la réalité telle que nous la vivons aujourd'hui, mais bien sûr d'une manière telle que les journaux en parlent, d'une manière beaucoup plus thoraïque, beaucoup plus spirituelle. Et je commencerai d'abord par réexpliquer ce que j'avais déjà, je pense, dans d'anciens cours, expliqué sur la notion, le mot Mashiach, qui veut dire le Messie en hébreu. Vous savez que, comme je l'ai souvent expliqué, le génie de la langue hébraïque, c'est que quand on a un mot, on peut prendre les lettres et les mettre d'une autre manière et peut apparaître un autre mot. Bon, en français ou dans une autre langue, c'est difficile. Quand tu as le mot chaise ou le mot table en français, même si tu changes les lettres, tu ne vas pas obtenir quelque chose qui est une explication que l'on peut comprendre en français. Mais en hébreu, en tout cas je parle dans l'hébreu biblique, pratiquement tous les noms, toutes les définitions, lorsque l'on place les lettres d'une manière différente, on peut obtenir une explication qui nous permet de mieux comprendre le sens du mot. Parce que quand on dit Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire Messie. Mais si on prend les lettres du mot Mashiach et qu'on les met d'une autre manière, on trouve le mot Shem Chai, le nom vivant, ou le nom de la vie, le nom vivant. Comment j'ai fait? J'ai pris le Mem et le Shin, les deux premières lettres du Mashiach, je les ai mis à l'envers, j'ai mis le Shin avant le Mem, ça fait Shem, le nom, et après Chai, le nom vivant. Et qu'est-ce que cela signifie? Le Mashiach, donc, une des explications, c'est donc qu'il va apporter la vie dans le monde. Son nom est le nom de la vie, le nom vivant. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde encore. Shem Chai, le nom de la vie. Mais si on prend les deux dernières lettres, Chai, ce sont les premières lettres de deux mots, de deux noms. Le Chet est la première lettre de la ville qui s'appelle Rome, en hébreu Hébron. Et le Yud est la première lettre de la ville bien connue, Yerushalayim, Jérusalem. Donc, je répète ce que j'ai dit, Shem Chai, le nom vivant, mais les deux dernières lettres, Chai, font allusion à deux villes dont je vais bien sûr expliquer le sens, la ville de Hébron en hébreu, qui commence par un Chet, Hébron en français, et la ville de Jérusalem en français, qui bien sûr en hébreu se dit Yerushalayim, qui commence par un Yud. Donc en vérité, dans le nom Mashiach sont inclus deux villes essentielles, Hebron et Yerushalayim. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, toute l'histoire d'Israël, et on va expliquer, c'est aussi l'histoire de l'humanité tout entière, a commencé à Hébron et elle se terminera à Jérusalem au moment de la délivrance finale. C'est-à-dire que Hébron et Jérusalem incluent toute l'histoire du monde et toute l'histoire de l'humanité. Et pourquoi? Qui est enterré à Hébron? Les pères et les mères fondateurs d'Israël, mais aussi, comme on le sait, Adam et Ève. Adam et Ève, les pères et mères fondateurs de l'humanité tout entière, de ce que nous appelons les 70 peuples. Ce qui veut dire qu'en vérité, à Hébron, sont enterrées les deux racines de l'humanité tout entière, Adam et Ève, qui ont donné naissance pas seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, les 70 peuples. Et sont enterrés aussi les trois quatre mères qui font allusion à la naissance, à la source d'Israël. Et pourquoi les pères et les mères d'Israël ont voulu être enterrés à Hébron? Parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient enterrés à Hébron, et ils savaient que la finalité de l'histoire humaine, c'est l'union totale entre Israël et les nations, et c'est pour ça qu'ils ont été, ils ont d'abord vécu pendant de nombreuses années, les trois pères et les mères ont vécu à Hébron, mais après ils ont été enterrés à l'endroit où sont enterrés Adam et Ève, parce que justement ils voulaient faire allusion au fait qu'un jour viendrait où l'humanité tout entière serait reconstruite, il n'y aurait plus de haine entre Israël et les nations, entre les nations et Israël, et au contraire, Israël et les nations formeront un couple qui sera le couple de la délivrance finale. La deuxième lettre, le Yud, Jérusalem. Nous savons que Yerushalayim, Jérusalem en français, nos prophètes expliquent qu'au moment de la délivrance, je le dis en hébreu, qui beiti bet tefila yikare lechol ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Ça fait allusion à la reconstruction du troisième temple, qui ne sera pas seulement le temple d'Israël, mais qui sera le temple de l'humanité tout entière, qui sera la maison de prière de l'humanité tout entière, ce qui signifie que Jérusalem redeviendra d'une certaine manière la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Elle sera bien sûr la capitale aussi politique d'Israël, mais sur le plan spirituel, Jérusalem sera la capitale de l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que finalement, nous comprenons maintenant quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le nom Machiar? C'est celui qui va reconstruire l'humanité tout entière, qui va reconstruire l'humanité dans cette unité entre Israël et les nations, qui deviendra le couple de la délivrance. D'ailleurs, comme vous le savez, comment dit-on le mot unité en hébreu? Le mot unité se dit Echad. Et si vous prenez à nouveau les lettres Echad, Aleph, c'est la première lettre du mot Adam. Chet, c'est la première lettre du mot Chava. En hébreu, on dit Ève, mais en français, on dit Ève, mais en vérité, c'est une erreur. Le mot en hébreu, c'est Chava. Donc, on a la première lettre Adam. La deuxième lettre, on a Chava, donc l'épouse de Adam. Et le Dalet, la première lettre du mot Dvekut, qui veut dire être uni. Ça veut dire que finalement, et là vous allez comprendre une chose extraordinaire, c'est quoi l'unité? C'est la reconstruction, l'unité du couple. Le couple étant d'une certaine manière le modèle, la source de ce que l'on pourrait appeler l'unité dans le monde. C'est pour ça que j'ai parlé du couple Israël-Nation, parce que dans le mot Echad, comme le disent nos prophètes, en ce jour Dieu sera un et son nom sera un sur toute la terre. Un, l'unité se dit Echad, et dans le mot Echad, on a Adam, Ève et Dvekut, c'est-à-dire l'unité entre Adam et Ève, l'unité dans le couple, et c'est la raison pour laquelle l'unité se construit à deux niveaux. D'abord au niveau de la famille, l'unité entre l'homme et la femme, et après au niveau des nations, l'unité à l'intérieur des nations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je l'ai déjà dit des milliers de fois que quand Hachem s'adresse pour la première fois à Abraham, quand il a 75 ans, il lui dit « Seront bénies en toi toutes les familles de la terre » et nos maîtres posent la question « Pourquoi n'est-il pas dit « Seront bénies en toi tous les peuples de la terre » ?» Pourquoi toutes les familles de la terre ? Pour nous faire comprendre que le fondement d'un peuple, c'est la famille. Quand la famille est construite, alors le peuple peut être construit. Mais si la famille n'est pas construite, aucun peuple ne peut être construit. Ce qui va nous permettre de comprendre maintenant une notion dont on a déjà parlé, mais je voudrais la revoir d'une manière un peu plus profonde. Pourquoi la Torah nous explique que l'ennemi fondamental de l'humanité tout entière est Amalek, comme vous le savez? Dès que Israël est sorti d'Égypte, le premier peuple qui s'est attaqué à Israël, encore avant le don de la Torah, c'était Amalek. Et il est dit, au moment où Amalek est venu nous attaquer, il est dit, Milchama l'Hachem be Amalek midor dor, que Hachem, Dieu, sera en guerre contre Amalek dans toutes les générations, jusqu'à la délivrance finale. Et d'ailleurs, si vous prenez la valeur numérique midor dor de génération en génération, la valeur numérique de midor dor de génération en génération, c'est la même valeur numérique que Ad Biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Messie. Ce qui veut dire que Hachem, Dieu, et d'une certaine manière l'humanité tout entière, est en guerre contre Amalek jusqu'à la délivrance finale, et la délivrance finale sera la victoire contre Amalek. Pourquoi Amalek? Que représente Amalek? Je l'ai déjà dit des dizaines de fois, mais je veux que l'on revienne sur cette notion qui est très importante. D'où vient Amalek? Amalek, comme on le sait, est un double bâtard. Son père, Eliphaz, a été avec une femme mariée qui était une reine, la reine de Séir. Ils ont eu un enfant, ils ont eu une fille ensemble, et cette fille s'appelait Timna. Et après, le père de Timna, Eliphaz, est revenu et a eu une relation avec sa propre fille et est né Amalek. Ce qui veut dire que Amalek est un double bâtard. En hébreu, un mamzer, il est bâtard du côté adultère et du côté inceste. Adultère, puisque la première relation d'Élipaz était avec une femme mariée, puis la deuxième relation d'Élipaz est avec sa propre fille, un inceste. Ce qui veut dire que Amalek est né des deux aspects, on pourrait dire, de la débauche, l'adultère et l'inceste. Qu'est-ce que ça veut dire dans un langage moderne? Ça veut dire la destruction totale du couple et de la famille. Parce qu'il est absolument évident que Eliphaz, en ayant un enfant avec une femme mariée, il ne peut pas vivre avec elle, et à plus forte raison qu'en ayant après un autre enfant avec sa propre fille, il ne va pas vivre avec elle. Ça veut dire que quelle était l'idéologie d'Eliphaz? Quelle était l'idéologie de finalement de créer des êtres humains qui n'ont pas de famille? De créer des êtres humains qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, et qui sont des bâtards, c'est-à-dire qu'ils sont des produits finalement de relations sexuelles qui sont complètement, on pourrait dire, abominables, complètement interdites, qui vont mettre au monde des enfants qui n'ont plus aucun point de repère, qui n'ont plus aucune source, qui ne savent pas qui est leur père, qui ne savent pas qui est leur mère, et qui finalement n'ont pas de famille et n'ont pas de possibilité de véritablement de comprendre ce que c'est un couple et de ce qu'est une famille. Ça, c'est l'idéologie d'Amalek. Donc Amalek, encore une fois, est le résultat de deux fautes sexuelles, un adultère et un inceste. Et toute l'idéologie d'Amalek va être justement d'essayer de créer une humanité dans laquelle vont disparaître le couple et la famille. Maintenant, on comprend pourquoi, et on le comprend aujourd'hui plus que jamais, puisque comme vous le savez, je l'ai souvent expliqué, on se rapproche de plus en plus de la délivrance finale, et plus on s'approche de la délivrance finale, et plus les forces contraires essayent d'empêcher justement la reconstruction de l'humanité tout entière, la reconstruction du couple, la reconstruction de la famille, la reconstruction des nations. Et c'est pour ça que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous explique que finalement, quelle est l'idéologie d'Amalek? C'est l'idéologie qu'on appelle en hébreu le Erev Rav, qui veut dire la grande confusion. L'idéologie d'Amalek, c'est la grande confusion. C'est quoi la grande confusion? Ça veut dire tout faire pour déstabiliser l'homme, déstabiliser la femme, déstabiliser les nations. C'est exactement la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On est vraiment, 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 vraiment aujourd'hui sous le signe plus que jamais dans l'histoire humaine, sous le signe de l'idéologie amalécite, d'Amalek, puisque l'idéologie officielle du monde occidental aujourd'hui, c'est la destruction du couple, la destruction de la famille et, en dernier recours, la destruction des nations, puisque, comme on le sait, les dirigeants et surtout les forces contraires qui sont cachées derrière les dirigeants font tout pour détruire les peuples aujourd'hui par des mélanges inimaginables de gens qui viennent de partout et qui n'ont absolument pas ni la mentalité française, ni la mentalité belge ou autre, et qui viennent et qui sont accueillis par centaines de milliers, par millions. Et évidemment, quel est le but? C'est de détruire les nations. Pourquoi? Parce que justement, à partir du moment où il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille et il n'y a plus de nation, l'homme perd tous ses points de repère, l'homme perd sa source, perd le sens de sa vie, perd le but de sa vie. Et à ce moment-là, c'est très, très, très facile de le dominer et finalement de le transformer en esclave. Et c'est plus ou moins ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous dirai quelque chose d'absolument incroyable que j'ai lu dans le Zohar il n'y a pas longtemps. Et c'était la première fois que je lisais cette notion-là. Que figurez-vous que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous explique que juste avant la délivrance, il y aura une énorme pandémie qui va se répandre dans le monde entier. Il ne parle pas du corona, bien sûr, mais il parle d'une épidémie. Bon, en français, c'est plutôt une pandémie. Une pandémie qui va se répandre dans le monde entier et qui va durer pendant des années et des années jusqu'à la délivrance finale. Et le Zohar rajoute, qui va être à l'origine de cette pandémie? Le Erev-Rav. Ça veut dire toutes ces forces cachées qui ont créé donc ce virus, etc., pour justement déstabiliser complètement l'humanité tout entière. Et on a commencé avec le corona, maintenant c'est le delta. Après le delta, ils vont nous inventer une autre, je sais pas comment l'appeler, une autre transformation du virus, etc. Et quoi qu'il en soit, le Zohar dit, et j'ai découvert ça il y a quelques jours, que finalement le dernier grand combat au niveau de l'humanité tout entière serait une pandémie qui va se répandre dans le monde entier et qui durera jusqu'à la délivrance finale. D'ailleurs, on le voit, puisque quand le corona a commencé, on est arrivé à une situation où on pensait que plus ou moins on s'en était sorti, et puis tout d'un coup est arrivé le Delta, on dit aussi Delta en français, hein, est
Oui.
arrivé le Delta, et on sait tous qu'une fois qu'on va arriver à vaincre le Delta, ils vont nous trouver une autre transformation, etc.
Est, c'est fait.
Une variante, voilà, une variante, c'est le mot que je cherche. Et donc, essayez d'éteindre vos micros, parce que ça fait du bruit. On est vraiment donc dans une situation où effectivement, selon ce que nos maîtres nous ont expliqué, et on voit qu'il y a une volonté véritablement de déstabiliser l'humanité tout entière, de manière à ce que l'homme n'ait plus aucun point de repère, de l'affaiblir, de manière à pouvoir le dominer d'une manière beaucoup plus facile, et finalement que tous les peuples, enfin ce qui restera des peuples, deviennent à la merci de ce pouvoir maléfique qui veut s'approprier le monde. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que comment le Mashiach va s'en sortir? Comment? Alors, d'un autre côté, j'ai déjà souvent expliqué que c'est toujours ce phénomène de jour et nuit, d'obscurité et lumière que l'on voit dans toute l'histoire. Parce qu'on vit d'une certaine manière dans une grande obscurité aujourd'hui et on ne sait pas du tout vers où on va. Mais d'un autre côté, comme j'ai souvent expliqué, on voit aussi un réveil inimaginable au niveau des peuples, au niveau de ce que moi j'appelle les Bnei Adam. Il y a un réveil extraordinaire au niveau donc des hommes et des femmes des nations qui prennent conscience d'une certaine manière de ce qui se passe dans le monde et qui prennent aussi conscience de l'importance de la Torah. Et il y a un réveil extraordinaire. C'est toujours ce jeu finalement d'obscurité et de lumière. Là où il y a une très grande obscurité, il y a une très grande lumière. Et là où il y a une très grande lumière, il y a une très grande obscurité. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour essayer justement de finalement de ne pas tomber dans ce piège de déstabilisation totale de l'humanité? Alors, je veux revenir justement sur ce que j'expliquais au niveau du Mashiach. Au niveau du Mashiach, comme vous le savez, au départ, le mot Mashiach veut dire loin, celui qui est loin. Et c'est le mot en hébreu Mashiach, c'est quelqu'un qui est loin. Comment qu'on le loin, excusez-moi, je ne sais pas si c'est qu'on dit comme ça, comment qu'on le loin. On prend des olives, on les broie complètement, on extrait l'huile et on versait sur la tête de certaines personnes, par exemple les rois étaient oints, on versait de l'huile sur leur tête, le Kohen Gadol, le grand prêtre au temple, était oint lui aussi. Généralement, c'était donc le roi et le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui était oint. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que justement, revenons maintenant à l'origine de cette onction, qui signifie en vérité « Mashiach », ça veut dire « celui qui est oint ». Tu prends une olive, tu la broies, tu la détruis totalement et tu extrais l'huile. N'oublions pas que l'huile, c'est aussi la source de la lumière. Pendant des millénaires, comment qu'on avait la lumière dans les maisons, c'était justement avec de l'huile. Mais regardez ce qui est très très intéressant, c'est que finalement l'olive, elle cache en elle l'huile. Maintenant, l'olive en tant que telle, tant que tu l'as dans les mains, même si tu la manges, tu n'as pas du tout un contact avec l'huile. Il faut vraiment la broyer, la faire disparaître pour pouvoir faire apparaître l'huile. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que le Mashiach, qui veut dire loin, celui qui a reçu l'onction, représente en vérité le dévoilement de l'intériorité. Puisque l'olive représente l'extériorité, elle cache en elle son intériorité, qui est d'ailleurs source de lumière, puisque l'huile permet d'apporter la lumière. Et donc, finalement, la lumière est cachée à l'intérieur de l'olive. Mais pour pouvoir avoir la lumière, pour pouvoir avoir l'huile, pour pouvoir avoir le Mashiach, il faut broyer, détruire complètement l'extériorité de ce monde pour que puisse apparaître l'intériorité. C'est ce que nos maîtres appellent le Or Haganouz, en français, la lumière cachée. C'est-à-dire que dans ce monde matériel se cache en vérité une lumière inimaginable. Le grand problème que nous avons tous et toutes, c'est que nous sommes prisonniers de ce monde matériel. Nous ne croyons que ce que nous voyons. D'ailleurs, comme le dit le proverbe en français, je ne crois que ce que je vois. On vit dans un monde matériel. On vit dans un monde d'argent, de plaisir, de bon, etc., dans un monde très matériel. Qui peut imaginer que se cache à l'intérieur de ce monde matériel une huile? Ça veut dire finalement l'onction du Mashiach se cache dans ce monde matériel toutes les forces de la délivrance. Pour pouvoir obtenir ce dévoilement, il faut que nous soyons capables justement de sortir de cet emprisonnement de ce monde matériel, de ce monde extérieur, et que nous ayons la force, la volonté, la détermination de rentrer à l'intérieur de ce monde matériel pour trouver la lumière qui s'y cache. J'explique quelque chose de très important, mes amis. La lumière de la délivrance finale n'est pas une lumière spirituelle qui est au-dessus de ce monde, qui descendra un jour et qui se dévoilera dans ce monde. Non! C'est tout le contraire. La lumière de la délivrance se cache à l'intérieur de ce monde matériel comme l'huile se cache à l'intérieur de l'olive. Et tu dois détruire l'olive pour faire apparaître l'huile. Dit dans un langage plus moderne, tu dois arriver à briser toute l'extériorité de ce monde pour arriver à rentrer à l'intérieur de ce monde et dévoiler sa lumière. Parce que dans ce monde matériel se cache une lumière inimaginable, mais personne ne la voit, personne ne l'imagine, et malheureusement, comme je le dis souvent, le grand, 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 grand mensonge des religions, c'est qu'elles nous font croire que Dieu est en haut, que la lumière est en haut, et que toutes les forces positives se trouvent en dehors de ce monde, alors que la Torah, la vraie Torah, nous dit exactement le contraire. Toutes les forces de la délivrance, toute la lumière de ce monde se trouve précisément cachée à l'intérieur de la matière. Mais pour pouvoir obtenir cette lumière, tu dois justement sortir de l'emprisonnement de l'extériorité pour rentrer dans l'intériorité. Et je vais vous étonner en répétant quelque chose que j'ai souvent dit, mais qui est extrêmement important. Et qui est parmi les êtres humains la personne qui est la plus adaptée à dévoiler l'intériorité de ce monde? Évidemment, la femme, comme le dit le roi Shlomo, le roi Salomon, Kol kvoda bat meler pnima. La grandeur de la femme, c'est l'intériorité. En hébreu, Kol kvoda bat meler, je traduis exactement, la grandeur de la fille du roi, la fille du roi, la fille de Dieu, pnima, c'est l'intériorité. Ça veut dire que maintenant vous allez comprendre, je l'ai déjà expliqué aussi très souvent, pourquoi les forces contraires font tout pour faire sortir la femme de l'intériorité et l'exposer de la manière la plus extérieure possible, de la plus nue, de la dénuder complètement, de l'exposer aux yeux du monde. Et finalement, la femme est tombée dans ce piège, finalement, de ne vivre que pour son extériorité, de vivre que pour le regard que les hommes vont poser sur elle. Et elle ne se rend pas compte qu'en vérité, que toutes les forces contraires essayent de l'éloigner de sa véritable mission, qui est justement de dévoiler l'intériorité de ce monde. Et donc, comme je dis souvent, là où il y a une qualité inimaginable, toutes les forces contraires viennent pour justement pour empêcher ces qualités de se dévoiler en prenant justement le porteur de ces qualités et en l'amenant dans un monde qui est à l'extrême opposé de ce qui normalement est sa mission. La mission de la femme est de dévoiler l'intériorité de ce monde et les forces contraires font tout pour faire de la femme un objet de séduction, un objet de nudité qui l'éloigne à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres de sa mission fondamentale. Et surtout, je parle bien sûr de la femme occidentale. Et donc, qu'est-ce que doit être finalement le travail de la femme, plus encore aujourd'hui que le travail de l'homme afin de faire venir la délivrance? C'est de retrouver son intériorité, de retrouver finalement sa véritable qualité, sa véritable dimension, qui est justement de rechercher l'intériorité des choses. D'ailleurs, regardez, même sur le plan physique, on le voit. Une femme met au monde la vie, mais pendant 9 mois, la vie est à l'intérieur d'elle, elle est cachée à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Justement pour nous faire comprendre que la femme, pour donner la vie, elle a besoin justement de garder à l'intérieur de son corps quelque chose de caché qui est justement le monde de l'intériorité. Et après, uniquement après avoir porté l'enfant pendant 9 mois, l'enfant va sortir. Donc, finalement, le début de la vie commence par justement par une vie intérieure à l'intérieur de la femme, pour bien nous faire comprendre que la femme ne peut donner la vie que si elle passe par l'intériorité. Excusez-moi aussi d'aller un petit peu plus loin, mais on est des gens propres, donc je ne me gêne pas à le dire. Même dans la relation entre l'homme et la femme, l'homme rentre à l'intérieur de la femme. Ça veut dire que à tous les niveaux, on voit que la femme est le monde de l'intériorité. La relation, l'homme rentre à l'intérieur de la femme, l'enfant est à l'intérieur de la femme. Et d'ailleurs, même allons plus loin, pendant les premières années, l'enfant va être à la maison avec la mère. Bon, aujourd'hui, tout change parce que beaucoup de femmes travaillent et les enfants sont mis dans des crèches, etc. Mais d'une manière, on pourrait dire, plus schématique, jusqu'à notre monde moderne où aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent et donc n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Mais pendant des millénaires, jusqu'à un certain âge, l'enfant était dans la maison avec sa mère. Donc, encore une fois, dans le monde de l'intériorité, il n'était pas à l'extérieur. Donc on a quantité, si vous voulez, de messages qui nous montrent que la femme a été construite pour justement dévoiler le monde de l'intériorité. Maintenant, vous comprenez pourquoi, comme je l'ai déjà expliqué, le serpent s'est attaqué à la femme avant de s'attaquer à l'homme. Parce que le serpent savait que la délivrance, que le salut du monde dépend de la femme beaucoup plus que de l'homme. Et comme je l'ai déjà dit, contrairement à tous ces... À tous ces, on pourrait dire, Toutes ces personnes dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, qui n'ont strictement rien compris et qui s'imaginent que le Mashiach sera un homme, ce sera un homme uniquement au niveau de la vitrine. Mais la véritable force messianique, ça sera une femme et non un homme. Ça veut dire que ce sera son épouse qui va lui donner toutes les forces de pouvoir agir dans ce monde. Mais en vérité, toutes les forces que le Mashiach portera en lui, ça sera les forces que sa femme lui donnera. Donc le vrai Mashiach ne sera pas un homme, ça sera en vérité une femme. La dimension cachée. D'ailleurs, dans ce monde matériel, on le sait tous, toutes les énergies sont cachées à l'intérieur de la matière. Dans l'atome, dans les atomes, les électrons, on ne les voit pas. Et dans l'atome, dans le noyau de l'atome, se trouve une énergie qui peut faire exploser le monde. Ça veut dire qu'en vérité, que les forces les plus puissantes sont cachées de nos yeux. Et c'est ça le symbole de la pudeur. C'est quoi en vérité la pudeur féminine? Qu'une femme cesse justement de s'exposer au regard des hommes de manière à retrouver son intériorité et de pouvoir devenir la véritable force qui va reconstruire et qui va sauver le monde. Alors évidemment, quand je parle de pudeur, ne me prenez pas d'une manière exagérée, c'est-à-dire, oui, Liliane me dit l'ADN par exemple. Bien sûr, toute la dimension humaine, toute la on pourrait dire la définition de l'homme, c'est l'ADN. Quelqu'un voit l'ADN. Merci. Merci d'avoir fait cette remarque tellement juste. Personne ne voit l'ADN, mais on sait que toute l'histoire humaine est dans son ADN et personne ne voit l'ADN. Donc on voit que finalement que toutes les forces de ce monde sont des forces cachées. Et dans la dimension humaine, la force cachée qui a complètement été détruite par le mal, ça doit être la dimension féminine. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Parce que lorsque les femmes vont avoir ce réveil et vont retrouver leur véritable dimension. Et quand je parle de pudeur, encore une fois, ne me prenez pas, je ne parle pas de pudeur dans le sens que la femme doit se couvrir des pieds jusqu'à la tête et on doit juste voir ses yeux qui dépassent. Qu'à Dieu ne plaise, je ne parle pas de ça. Je parle d'une pudeur beaucoup plus moderne. Ça veut dire, je parle seulement que la femme cesse de devenir l'objet du regard. C'est de ça que je parle. Ça veut dire qu'elle cesse de vivre en fonction de comment les autres vont la regarder. Parce que dans cette dimension-là, elle sort complètement de sa dimension intérieure. Ce qui veut dire que, pour terminer, finalement, la délivrance finale ne va pas passer par les hommes, elle va passer par les femmes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, que le serpent s'est attaqué à la femme et non à l'homme. Parce que le serpent savait que le salut dépend de la femme. Et donc, c'est pour ça que nous, les hommes, on doit tout faire pour avoir, d'une certaine manière, l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que finalement, depuis la faute de Adam, le monde est tombé dans le monde de l'extériorité. Et c'est pour ça que les hommes se croient beaucoup plus importants que les femmes. Mais en vérité, le Mashiach va remettre le monde à l'endroit et les hommes se rendront compte que finalement, que la force la plus importante de ce monde n'est pas l'homme, mais est la femme. Parce qu'elle est à l'intériorité, toutes les forces cachées, comme on le sait, sont à l'intériorité et non à l'extériorité. Voilà mes amis, on va maintenant passer à vos questions. Et bien sûr, donc les cours reprennent normalement maintenant, dimanche prochain, dimanche d'après. Bon, dans un mois, il y aura les fêtes. En ce qui nous concerne, Rosh Hashanah, Kippour, etc., mais ça, on en parlera. Mais en tout cas, pendant un mois maintenant, on ne va pas interrompre les cours du dimanche. Alors, mes amis, y a-t-il des questions sur, ça peut être des questions dans un autre domaine. Oui, Harry.
Adonai, c'est aussi ADN. ADN, Adonai.
Bravo, bravo, bravo. C'est une explication qui a déjà été très, très, très souvent apportée. Et que vous avez retrouvé absolument dans le mot Adonai, qui veut dire Dieu en hébreu, vous avez ADN. Et Adonai, c'est par définition la dimension cachée, puisque Dieu, on ne le voit pas, Dieu, on ne sait pas où il est. Dieu, c'est la dimension la plus cachée de toute la création. Et comme par hasard, en français, le mot ADN, ou même en anglais DNA, mais c'est quand même les lettres ADN, quoi qu'il en soit, L'humanité tout entière appelle l'identité humaine ADN, qui veut dire Adonai. Comme pour nous faire comprendre que de la même manière que Dieu est caché, la dimension humaine authentique est complètement cachée elle aussi. Absolument. Voilà. Oui, Liliane, il faut ouvrir votre micro. Attendez, je vais...
Oui.
Voilà. Très bien, Liliane, oui.
Que penser des GPA et tout ça Que penser de toutes les fécondations qui ne sont pas naturelles dans le monde futur?
Écoutez,
ces enfants-là, quels vont être leur rôle?
Tout est produit une fois de plus, tout est fait encore une fois de plus pour priver les nouvelles générations de leur source. Aujourd'hui, encore une fois, je parle d'une manière neutre, ne prenez pas ce que je dis comme une attaque, mais on le sait très bien dans le monde entier, les homosexuels ont des enfants qui ne sont pas créés naturellement. De plus en plus de femmes aujourd'hui se font des enfants, même si elles ont un copain, elles ne veulent pas un enfant du copain, elles veulent un enfant qu'elles prennent dans une éprouvette. C'est aujourd'hui des millions de femmes dans le monde, et en Israël aussi malheureusement, ça devient de plus en plus légal. Et je sais qu'en France, il y a encore une loi qui interdit de payer une mère porteuse. En Amérique, cette loi a sauté. Et ne vous faites aucun doute, cette loi, elle va sauter dans le monde entier d'ici quelques années, peut-être plus tôt encore. Ce qui veut dire que une femme qui travaille, etc., ou qui n'a pas envie d'être enceinte, le couple payera une mère porteuse et finalement l'enfant ne sera pas véritablement l'enfant de ses parents et il ne connaîtra jamais la mère qui l'a mis au monde. Donc c'est vrai au niveau, excusez-moi de le dire, c'est vrai au niveau des lesbiennes, c'est vrai au niveau des homos qui sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais c'est vrai aussi même au niveau des femmes qui ne sont ni lesbiennes ou des hommes qui ne sont pas homos, qu'ils décident de se prendre une semence dans une éprouvette, puisqu'elles sont toutes congées dans les hôpitaux aujourd'hui dans le monde entier, et de se faire un enfant sans savoir finalement qui est à l'origine de cette semence-là. Et bien sûr, quelle est l'idée cachée qui est derrière tout ça? Déstabiliser l'humanité tout entière. C'est encore une fois, c'est absolument incroyable. Il y a 4000 ans déjà, les peuples étaient appelés les familles de la terre, comme pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de peuple sans famille. Et toute l'idéologie aujourd'hui du monde occidental, c'est justement de détruire la cellule familiale pour détruire les peuples et déstabiliser complètement les hommes et les femmes.
Ça va donner une décadence.
Mais ça va donner une décadence inimaginable, mais ça va permettre d'une certaine manière de robotiser l'humanité tout entière au service des grandes puissances financières qui vont prendre le dessus sur l'humanité tout entière. Vous savez, je l'ai déjà dit, je pense, dans certains cours aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, nos maîtres disent, il y a déjà de nombreux millénaires, que le dernier grand dictateur qui reviendra sur Terre avant la délivrance finale sera Nimrod. Et qui était Nimrod? Nimrod a été le premier qui a voulu justement détruire l'humanité, pas détruire les humains, mais détruire l'humanité, c'est-à-dire détruire les peuples, en construisant la tour de Babel et en réunissant des peuples qu'il a complètement mélangés de manière à ce qu'ils perdent leur identité nationale et que plus personne ne sait qui il est. Et regardez la France aujourd'hui, regardez l'Allemagne. L'Allemagne a fait rentrer en elle, bon, elle a déjà des millions de Turcs depuis très longtemps, mais ces dernières années, elle a fait rentrer des centaines de milliers, voire peut-être même quelques millions de Russes, des gens d'Europe de l'Est, et n'oublions pas, 1 million de Syriens. 1 million de Syriens sont rentrés en Allemagne. Mais comment c'est possible? Vous savez combien il y a d'Allemands authentiques, c'est d'origine allemande sur plusieurs générations en Allemagne aujourd'hui?
20%.
Mais 30% d'Allemands d'origine allemande sur plusieurs générations. 70% de l'Allemagne aujourd'hui n'a pas d'origine allemande.
Autant dire qu'ils vont disparaître.
En tant qu'Allemands, ils vont disparaître, c'est sûr. Mais ça attend d'une certaine manière l'Europe tout entière.
La France.
La France aussi. La France est complètement, complètement investie aujourd'hui par des étrangers qui ne se reconnaissent pas en tant que Français. Il y a des exceptions, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Mais la grande majorité des étrangers en France et dans tous les pays d'Europe ne se reconnaissent pas comme Français. Vous savez, il s'est passé la même chose en Israël. Dans les années 90, nos dirigeants ont fait monter 1 million de Russes en Israël, dont plus de 70% ne sont pas juifs.
Mais pourquoi ça a été fait? Pourquoi ils ont fait ça?
Et parce que ça fait partie de toute cette conspiration mondiale de détruire les nations. Et je suis désolé de vous dire que nos dirigeants ne sont pas meilleurs que partout ailleurs. Hein. Et il y a le Zohar dit clairement, et un jour je vous lirai ce texte, que tous les dirigeants d'Israël avant la délivrance finale feront partie du Erev Rav, feront partie de la grande confusion. C'est explicite dans le Zohar, ça a été écrit il y a 2000 ans. Ça veut dire que nos dirigeants ne sont pas de vrais juifs, ils font partie de tout ce complot mondial d'affaiblir les peuples pour pouvoir justement mieux régner sur une humanité robotisée.
Et tout ça pour l'argent.
Tout ça pour le pouvoir et pour l'argent. Le pouvoir encore plus que l'argent. Mais l'argent, c'est sûr. Mais le pouvoir surtout. Absolument. Y a-t-il une autre question?
Merci.
Oui, oui, je voudrais poser une question sur le... Ouais. J'ai l'impression qu'il manque une étape. Enfin, il y a une étape que je n'ai pas comprise dans votre explication. Vous avez dit que on prend les olives, on les broie pour en faire de l'huile. Et une fois qu'on a de l'huile, les olives n'existent plus. Est-ce qu'il faut filer la métaphore jusqu'au niveau de du process qui va se passer pendant la délivrance finale? C'est-à-dire que, en gros, tout le monde va mourir. Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé?
Non, je n'ai pas dit forcément. Bon, écoutez, je ne voudrais pas dire à haute voix des textes qui forcément sont vrais, puisqu'ils ont été écrits par des grands maîtres qui nous disent que la guerre de Gog et Magog va détruire 2/3 de l'humanité. Bon, on espère que ce n'est pas vrai sur le plan physique, que c'est peut-être vrai peut-être sur le plan, on pourrait dire, du monde de l'extériorité. Mais nos maîtres nous disent que 2/3 de l'humanité disparaîtront juste avant la délivrance finale. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire physiquement. Ça peut vouloir dire disparaître dans le sens que le monde cessera d'être ce qu'il est aujourd'hui pour redevenir un monde, le monde de l'intériorité, un monde avec un sens, avec un but, avec une raison d'exister. C'est peut-être aussi ça le sens. Mais non, je ne faisais pas allusion forcément à une destruction physique du monde. Non, parce que la preuve, c'est que nos maîtres nous disent que les 70 peuples vont être reconstruits de la délivrance finale. Ce qui va disparaître, ce sont toutes les forces négatives, toutes les forces maléfiques qui veulent s'emparer de notre monde pour le dominer et nous transformer en esclaves de leur pouvoir financier et politique. Oui, ça oui. Mais ils sont de loin pas la majorité dans ce monde. Mais c'est évident que les peuples ne vont pas disparaître, puisqu'au contraire, l'une des missions fondamentales du Mashiach va être de reconstruire les 70 peuples, de redonner l'identité nationale aux 70 nations, qui seront tous unis avec Israël comme un couple qui va reconstruire le monde. Donc, encore une fois, je ne fais pas allusion à une destruction physique du monde, mais plutôt à une destruction comme l'olive qui finalement se fond dans l'huile elle-même. Finalement, l'olive disparaît, mais elle devient l'huile, ce qui veut dire qu'elle existe toujours. Comprenez? Voilà.
Yora. J'ai une question, oui. Oui, j'ai une question. Alors, ça, Yoram, pour moi, c'est vrai.
Yoram, c'est Yoram Alberstam, c'est ça?
Oui, voilà.
Ah, longtemps qu'on ne t'ai pas vu.
Ça fait très longtemps. Ça fait un chavou à top, Rodestop. En fait, pour moi, toute cette destruction de la famille, c'est quelque chose qui a été fait pendant un certain temps, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, où après avoir effacé l'identité des peuples, l'identité de la famille, c'est l'identité même de l'homme et la femme. On voit ça beaucoup aux États-Unis, où il y a des femmes qui veulent être des hommes, et après avoir des enfants, il y a dans les classes des enfants de 7 ans, on leur dit peut-être que vous êtes une fille ou un garçon, il y a des parents qui élèvent leurs enfants, ce qu'ils appellent gender neutral, donc sans savoir si c'est un garçon ou une fille. Il y a des pères de famille qui se battent au tribunal parce que les mamans veulent donner à leurs enfants de 7-8 ans des... En fait, c'est pour faire quelque chose d'irréversible, parce que toute cette idéologie avec la famille, c'est réversible. Mais à partir du moment où on a changé le corps et tout ça, ça devient, c'est pour mettre que ça soit irréversible. On arrive de plus en plus devant ça, donc c'était mon...
Je suis 100% d'accord avec toi, et chez nous en Israël, on est loin d'être protégé de ce phénomène-là. Je pense que tu le sais très bien. Israël aujourd'hui est devenu le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière, dans tous les domaines, et dans ce domaine-là aussi, et dans ce domaine-là aussi malheureusement.
Je sais, moi j'ai eu en Israël, et je ne vais pas nommer l'endroit, mais dans une école où une mère est venue, on fait Abba Shel Shabbat et Ima Shel Shabbat, et elle voulait qu'on fasse Abba Shel Shabbat et Abba Shel Shabbat. Donc c'est même partout, c'est même dans les milieux qui sont dans les écoles où qui sont religieuses, ça commence à gratter beaucoup. Et donc,
100% d'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus... Bon, je l'ai dit dans différents d'autres cours, mais la Torah a pratiquement disparu aujourd'hui. Elle a été remplacée par la religion juive, qui n'a aucune différence avec toutes les autres religions. Ça veut dire que bien sûr qu'il y a toujours des hommes authentiques qui sont accrochés à la vraie Torah, mais la grande majorité de notre peuple aujourd'hui a sombré dans la religion. Et la religion, c'est quoi? C'est la déconnexion totale avec ce monde, où finalement on vit dans des fantasmes, dans des illusions totales, et on n'est plus du tout connecté à la réalité. Et donc, c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Notre nouveau gouvernement en Israël va tout faire pour se battre contre la Torah, on le sait, puisque ce sont une idéologie de gauche, d'extrême gauche, et ils vont tout faire pour casser tous les fondements de la Torah en Israël. Mais d'un autre côté, le gouvernement d'aujourd'hui, ce ne sont pas de vrais juifs, on le sait, ce sont des juifs déguisés. Et donc, il va y avoir un combat terrible en Israël qui nous attend, terrible, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Voilà, merci beaucoup Yoram pour ta question. Oui Agnès.
Bonjour Rav, pendant que vous n'étiez pas là, donc on a écouté donc beaucoup, et en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est justement le fait de l'annulation du Vav, c'est-à-dire de la mémoire, qui correspond donc à la mémoire. C'est-à-dire que là, actuellement, on essaye d'annuler tout ce qui est notre mémoire.
Absolument.
Et la mémoire, en fait, elle se traduirait par de multiples façons, évidemment. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est par le Shabbat, c'est-à-dire par le Shin. Le Shin qui représente la Jérusalem. Parce que le Shin représente donc le temple, le feu, et Evron représente la terre. Donc, ça devrait en quelque sorte faire un schisme. Ils veulent faire un schisme entre la terre et le feu, et la terre et le feu, c'est-à-dire entre la Torah et Israël, et donc, non, entre la Torah et Hachem. Non, je me trompe, je m'excuse, mais entre le feu et la terre, c'est-à-dire entre Jérusalem et Évron, c'est-à-dire faire la scission entre les deux, ce qui fera en sorte le fait, pour en revenir, au Vav qui sépare tout et qui unit tout.
Absolument. Écoutez, puisque vous avez parlé de ça, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez qu'en français, quand quelqu'un perd la mémoire, on dit qu'il a un trou de mémoire. Alors, tenez-vous bien pour ne pas tomber de votre chaise. Et je vais vous dévoiler comment dans l'hébreu biblique se cachent des secrets absolument incroyables. Et je dis toujours que la langue qui traduit de la manière la plus extraordinaire les messages de l'hébreu biblique, c'est la langue française. Et vous allez comprendre pourquoi. En français, on dit un trou de mémoire. Maintenant, comment se dit la mémoire en hébreu?
Zachor.
Comment se dit un homme en hébreu? Zachar. C'est le même mot. Comment se dit une femme en hébreu biblique? Nekeva. Nekeva, excusez-moi, ça veut dire le trou. Nekev, c'est un trou. Ça fait aussi allusion à la constitution sexuelle de l'épouse. Mais d'un autre côté, l'homme se dit Zachar, qui fait allusion à la mémoire, et la femme s'appelle Nekeva, en hébreu biblique. Elle a aussi d'autres noms, mais l'un de ces noms, c'est Nekeva, qui veut dire le trou. Quand tu mélanges les deux, tu as le trou de mémoire. Et puisque l'homme, Zachar, c'est la mémoire, la femme, Nekeva, c'est le trou de mémoire. Ça veut dire que l'origine de la phrase française « trou de mémoire » est en vérité la confusion entre l'homme et la femme. Ça veut dire que comment on perd sa mémoire? En s'attaquant au couple. Ça veut dire que lorsque tu mélanges le couple et que l'homme ne sait plus ce qu'est un homme et la femme ne sait plus ce qu'est une femme, on a un trou de mémoire. On a un trou dans la mémoire. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire on a un trou dans la mémoire? Ça veut dire que l'homme devient une femme et la femme devient un homme. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Où finalement l'homme a perdu sa dimension d'homme, la femme a perdu sa dimension de femme, la vraie femme et l'homme véritable, on ne sait plus vraiment ce que c'est aujourd'hui. Tout est mélangé, tout est confus, et c'est ça le secret de l'explication en français, le trou de mémoire. C'est absolument incroyable. Et c'est exactement, c'est toute l'idéologie aujourd'hui, comme Yoram l'a dit tout à l'heure, de finalement, de pas seulement détruire le couple et la famille ou les nations, de même détruire la dimension masculine et la dimension féminine, de le détruire. Et de manière à ce que finalement, si un homme a envie de devenir une femme, il peut devenir une femme. Si une femme veut devenir un homme, il peut devenir un homme. Ou bien même si je reste homme, je reste femme, je peux vivre avec un homme, je peux vivre avec une femme. Ça veut dire que finalement, les véritables dimensions masculines et féminines sont en train de disparaître complètement. Complètement. Et j'oserais presque exagérer, mais je sais que je n'exagère pas. Peut-être viendra un temps où un homme et une femme auront honte de sortir dans la rue et se tenir par la main. Tout le monde dira, ils ne sont pas normaux ceux-là, quoi, un homme avec une femme, mais ce n'est pas des gens normaux, ça. Et je pense qu'on n'est pas très, très, très loin de cette situation. Vous savez qu'à San Francisco, il y a des quartiers entiers, immenses, d'homo et de lesbiennes, où ils ne laissent pas rentrer un couple rentrer dans ce quartier-là, à San Francisco. Faites une recherche, vous verrez que j'ai raison. Où ce sont que des homos et des lesbiennes, et si tu es un couple normal, on ne te laisse pas rentrer. Ou on ne te laissera pas t'embrasser ou te tenir par la main, etc., dans ce genre de quartier-là. On ne te laissera pas. Voilà.
On voit ça déjà dans les... J'ai vu ça dans les lieux de vacances où on voit beaucoup de groupes de filles et beaucoup de groupes de garçons qui sont ensemble, alors qu'avant, quand j'avais leur âge, non, ça n'arrivait pas. Hein.
Vous avez raison, Marc, et j'ai honte de vous dire que sachez qu'à Tel Aviv, il y a une plage uniquement d'homo et de lesbiennes, où des couples normaux ne peuvent pas rentrer. À Tel Aviv, oui, une plage uniquement d'homo et de lesbiennes. D'un côté les homos, d'autre côté les lesbiennes, mais un couple normal ne peut pas rentrer sur cette plage-là.
Et je pense qu'elle est juste à côté de la plage des Haredim, juste à côté. Là. Et c'est vraiment, ils ont mis ça à côté de ça.
Qui dit ça, Yoram?
Oui, oui, je pense que c'est juste à côté de la plage des Haredim.
Tu as 100% raison, c'est à 300-400 mètres de la plage où d'Afka les religieux vont. Exactement.
Je crois que ce n'est même pas forcément que les homos, mais comme les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre, les gens ne vont plus te rencontrer et finalement, il y a une séparation de fait qui est, je dirais, presque naturelle. Et moi, je trouve que enfin, moi, ça m'a étonné hein, de voir ça.
Oui, c'est sûr que... Écoutez, quel est le côté positif de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? C'est toujours le même phénomène. Là où il y a une grande obscurité, se cache une lumière extraordinaire. Pourquoi l'obscurité devient de plus en plus puissante dans nos générations? Parce qu'on approche la délivrance finale. Et derrière cette obscurité se cache une lumière qu'on ne peut même pas imaginer qui un jour va exploser et amènera la délivrance finale. Mais d'un autre côté, il faut savoir, comme je le dis toujours, que Dieu ne fera rien s'il n'a pas, on pourrait dire, un minimum d'hommes et de femmes sur terre qui se prennent en main. Et c'est pour ça que finalement, notre travail en tant qu'être humain, on essaye d'être des êtres humains authentiques et ne pas se laisser complètement, on pourrait dire, engloutir par le système, c'est la femme de retrouver sa véritable dimension. Encore une fois, quand je parle de pudeur, ne me prenez pas la lettre, je ne parle pas de la pudeur dans le sens couvert d'un voile, des pieds jusqu'à la tête, ce n'est pas du tout de ça que je parle pudeur dans le sens que la femme prenne conscience qu'elle porte en elle des forces que l'homme n'a pas, de retrouver la dimension intérieure du monde, et ça passe aussi par le fait qu'elle s'expose moins à la vue justement des hommes et d'essayer de redevenir plus elle-même d'une manière authentique. Et l'homme et la femme ont ce rôle aujourd'hui plus que jamais d'essayer de véritablement de consacrer sur le plan qualitatif le meilleur de leurs forces pour construire leur couple et construire leur famille. Et quand le maître du monde verra qu'il y a cette graine authentique dans le monde qui fait tout pour ne pas se laisser avaler par le système qui veut détruire justement l'homme et la femme, c'est ça la graine qui amènera la délivrance finale. Comme je l'ai souvent expliqué, le Mashiach en hébreu s'appelle Tsemar, une pousse. Et une pousse commence à partir d'une graine. On l'appelle Ish Tsemar, un homme qui pousse à partir du sol. Mais pour pousser à partir du sol, il faut une graine. La graine, c'est nous. Ça veut dire que le Mashiach ne viendra que grâce à des gens comme nous, qui investissons le meilleur de nous-mêmes dans la réussite du couple, dans la réussite de la famille. Alors c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, ne soyons pas utopiques, ne soyons pas imbéciles. Il n'y a pas un couple parfait, il n'y a pas une famille parfaite. Mais on essaye, on fait des efforts. Et au fur et à mesure, on devient la graine qui permettra justement à la délivrance de pousser et de se dévoiler. Et on n'a pas besoin d'être la majorité, comme nos maîtres nous le disent, je l'ai déjà dit souvent, le mensonge est toujours du côté de la majorité et la vérité est toujours du côté de la minorité, en tout cas jusqu'à la délivrance finale. On ne doit pas s'inquiéter si on fait partie de la minorité, si on va contre le système et parce que de toute façon, la minorité est toujours dans la vérité et la majorité est toujours dans le mensonge. Et c'est vrai, malheureusement, dans tous les domaines. Voilà. Y aurait-il une dernière question, mes amis, parce qu'il va falloir que j'y aille. Et on se retrouve bien sûr dimanche prochain. En tous les cas, j'étais très, très, très content de notre échange aujourd'hui. J'étais vraiment très ravi de vos questions, de votre participation, de votre présence. Y a-t-il une dernière question?
Qu'est-ce qui se passe en Israël?
Ben écoutez, je vais vous dire la vérité. Toutes les forces contraires s'attaquent à notre pays, s'attaquent à notre peuple pour le détruire. Et je ne parle pas de guerre ou de choses comme ça, je parle de l'idéologie. C'est pourquoi le serpent s'est attaqué à Chava? Parce que Chava est la source de la délivrance du monde. Et pourquoi toutes les forces contraires s'attaquent à notre peuple aujourd'hui? Parce que on est censé jouer un rôle important dans la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dirais très franchement que avec le nouveau gouvernement, avec tout ce qui se passe dans notre pays, les choses ne vont pas très, très, très bien. les choses ne vont pas très bien. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne reste pas des milliers, des centaines de milliers de gens extraordinaires dans notre pays. Je parle de la vitrine, je parle de l'officiel. Le gouvernement est un gouvernement très, 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 très anti-Torah, qui va tout faire pour essayer de libéraliser Israël et en faire un pays occidental comme les autres. Et c'est son projet. Et puis bon, je veux dire, les choses ne sont pas simples. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que ça me fait beaucoup, 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 beaucoup de peine. Mais comme je dis souvent, moi je suis arrivé en Israël il y a 30 ans. Israël, il y a 30 ans, il y a même 20 ans, n'était pas le pays que l'on a aujourd'hui. La nouvelle génération est tellement, tellement esquintée par la technologie, vous savez, ça aussi, il faut comprendre que toute la modernité cache en vérité une idéologie qui a pour but d'isoler l'homme. Aujourd'hui, vous rentrez, l'image classique, vous rentrez dans un restaurant aujourd'hui, mais vous voyez le père, la mère, les enfants, chacun avec un portable, et voilà, mais c'est pas seulement en Israël, c'est dans n'importe quel pays au monde. Vous rentrez dans un bus, vous rentrez dans un métro, vous rentrez dans un train, tout le monde avec son portable, son portable, son portable. Ça veut dire qu'on isole l'homme, on le sépare de l'unité, on en fait un être à part. Et la nouvelle génération en Israël, mais bien évidemment comme partout dans le monde, est d'une faiblesse inimaginable parce qu'elle ne fait plus rien. Elle ne fait plus de sport, elle ne fait plus de... Il n'y a plus rien. Vous savez, même au niveau de l'armée, il y a de plus en plus de jeunes qui essayent de ne plus s'engager dans l'armée. Pour nous, en Israël, c'est un sacré, sacré problème parce qu'on est quand même drôlement en danger avec l'Iran, avec ci, avec ça. Et vous avez de plus en plus de jeunes qui essayent de ne plus rentrer à l'armée aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tellement modernes qu'ils n'ont pas envie de se mettre en danger. Je ne les juge pas, je peux les comprendre puisqu'ils sont, ils sont prisonniers du système de la modernité. Ils ont envie de kiffer la vie et c'est tout. Et c'est sûr qu'être un soldat en Israël, c'est pas comme être un soldat en France où à vision humaine, il n'y a pas de risque de guerre. En Israël, il y a des risques de guerre tous les jours. Donc, je peux comprendre que la jeunesse n'a pas envie de s'engager. Mais d'un autre côté, Israël est un pays qui a beaucoup, beaucoup changé ces 10-15 dernières années parce que la nouvelle génération est prisonnière de la technologie, prisonnière de la modernité. Il y a de moins en moins de on pourrait dire de moins en moins d'identité juive ou israélienne authentique. Il y a beaucoup d'exceptions, bien sûr, ne me prenez pas 100% à la lettre, mais le pays d'Israël aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 20 ans ou il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Mais comme je dis toujours, ce n'est que le reflet de l'humanité tout entière qui est en train de s'écrouler au niveau de la grande image. Et heureusement qu'il reste des gens comme nous qui essayons de s'accrocher de toutes nos forces pour ne pas se faire avaler par le système. Et ce sont encore une fois, grâce à des gens comme nous, que la graine de la délivrance sera plantée et que finalement la délivrance se dévoilera. Voilà mes amis. Je vais devoir arrêter aujourd'hui. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau cours. Merci encore une fois. Après cette longue interruption, c'est vraiment un grand plaisir de se retrouver. Et on continue pour se renforcer tous ensemble. Comme je dis toujours, c'est pas uniquement un cours. Mais c'est le but essentiel, c'est de se renforcer tous ensemble, de travailler tous ensemble, de se transformer et de devenir les graines de la délivrance finale. Voilà mes amis, merci à tous et à toutes et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt, au revoir.
Merci maître, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.